France Musique. Musicopolis. Saint-Saëns, 1877, Paris. Le 27 février 1877, Camille Saint-Saëns a obtenu un « succès honorable », ce sont ses mots, pour son premier opéra « Le timbre d'argent », enfin représenté au bout de plus de 12 ans d'avanies et d'avatars. S'il n'est pas entièrement satisfait, il peut du moins se consoler en sachant que cet automne, Liszt, le grand Liszt, doit monter à Weimar son opéra biblique « Samson et Dalila ». Et surtout, notre Saint-Saëns peut constater que sa musique instrumentale est constamment jouée en France et à l'étranger. Saint-Saëns a composé sa danse macabre en 1874. C'est un poème symphonique pour orchestre qui a obtenu tout de suite un magnifique succès. Depuis, sa renommée s'est propagée et il ne se passe quasiment pas de semaine sans qu'on l'entende ici ou là. Les associations symphoniques se sont emparées de la danse macabre, qui, grâce à sa courte durée, tient facilement sa place dans n'importe quel programme. Mais un succès aussi évident ne peut pas se cantonner aux orchestres. Le public réclame la partition et n'a pas toujours un orchestre à sa disposition. Il faut pouvoir faire, même avec de plus petits moyens. Le compositeur commence lui-même par écrire une réduction à deux pianos. Évidemment, n'importe qui ne peut pas jouer cette transcription pour deux pianos, et pas seulement parce qu'on n'a pas toujours deux pianos à portée de main. Mais quoi qu'il en soit, devant le succès de l'œuvre, les éditeurs sautent sur la partition, et bientôt les arrangeurs se font un devoir de donner des versions qui pourront se prêter à tout type d'occasion, avec professionnels ou amateurs, y compris des arrangements faciles pour piano à deux ou quatre mains. Le grand Liszt lui-même a prévu quelque chose, d'un peu virtuose bien sûr. Thank you. On peut suivre la progression du succès de la danse macabre de Saint-Saëns à la lecture de la Revue et Gazette musicale de l'année 1877. L'œuvre est donnée d'abord par l'orchestre Colonne le 11 février, à Paris, au Châtelet. Puis le 14 mars, salle Erard, Marie-Jaël joue la version piano seul de Liszt. Quelques jours plus tard encore, on entend une version piano à la dernière séance publique des cours de l'Institut musical Cométant. On apprend que le même mois, l'œuvre a été bissée à Liège. Le 10 avril, le compositeur prête son concours au concert de la pianiste Madame Sarvadi pour interpréter avec elle la version à deux pianos. Quelques jours plus tard, séance musicale de Madame Montigny-Rémory qui exécute là encore la version deux pianos avec Monsieur Delaborde, qu'on avait entendu dans le troisième concerto au mois de janvier. Je vous cite encore brièvement les concerts de Turin en juin devant les princes royaux, de Berlin en octobre et de Paris à nouveau en novembre. La Revue et Gazette remarque judicieusement que cette danse macabre tend à être de toutes les fêtes musicales. Saint-Saëns pourrait s'agacer du succès de cette danse macabre qu'on entend partout. Mais ce serait être bien difficile. Et puis, ses autres œuvres sont jouées, elles aussi. En février, on a entendu son trio en fa lors d'une séance de la très appréciée Société de Quatuor Marsic d'Elsaar. En mars, on entendait à nouveau son troisième concerto pour piano, puis son quatuor en si bémol au concert de Marie-Jaël. Ce quatuor est une œuvre peu jouée encore parce qu'elle ne date que de l'année dernière, nous dit la Revue et Gazette musicale, d'une exécution fort scabreuse et qui a nécessité tout le talent de ses interprètes pour être menée à bien. Thank you. Au début du mois de mars, la revue et gazette musicale annonce que Saint-Saëns est attendu à Vienne et à Pest vers la fin du mois pour donner des concerts. C'est qu'il est évidemment un virtuose émérite. Il joue bien sûr ses propres œuvres, mais aussi les œuvres de ses collègues. Quelques années plus tard, Liszt déclarera que lui-même, n'ayant plus assez de doigts pour apparaître en public, il laisse le soin de jouer ses œuvres difficiles à Bülow, Saint-Saëns ou Rubinstein. On comprend que, pour Liszt, notre Camille est dans le trio de tête des grands pianistes de son époque. D'ailleurs, cette année 1877, il compose son premier recueil d'études pour le piano, son opus 52. Saint-Saëns a bien sûr la technique pianistique nécessaire pour jouer ses propres œuvres. Mais il y a aussi de nombreux virtuoses qui peuvent s'y coller. Ses concertos sont joués partout. Et quand je dis partout, je ne veux pas juste dire dans les diverses salles parisiennes. En mars 1877, on joue le fameux deuxième concerto, dit concerto en sol, jusqu'à Baltimore. Bon, c'est vrai, le son n'est pas top, mais c'est Saint-Saëns lui-même qui joue, enregistré en 1904. Le son n'est pas extraordinaire, mais on se rend compte tout de même comme Saint-Saëns joue cette introduction dans le style de Bach, bien droit et sans chichi. Une tradition d'interprétation qui a été oubliée depuis. Il faut remonter à Jeanne-Marie Darré, enregistrée en 1947 avec l'orchestre des Concerts Colonnes dirigé par Paul Paré, pour la retrouver. Écoutons-la un peu plus loin dans le premier mouvement. Si on joue le deuxième concerto de Saint-Saëns en mars 1877 à Baltimore, le même mois, on joue aussi son trio en fa à Buenos Aires, sa danse macabre, je l'ai déjà signalé, à Liège, et son concerto pour violoncelle à Prague. À Prague, le violoncelliste est Adolf Fischer, un jeune musicien belge qui s'est installé à Paris et qui fait une carrière internationale. Il va tourner tout cet hiver 77 en Europe et notamment en Allemagne, où il joue partout le concerto de Saint-Saëns. Si l'on en croit la revue et gazette musicale, Fischer est un excellent artiste qui fait applaudir sa correcte virtuosité, son style élevé et sobre et sa belle sonorité. On le voit, Saint-Saëns ne chôme pas. Il compose, il joue ses œuvres et celles des autres, il préside la Société nationale de musique. Mais ce qui bloque vraiment son emploi du temps, c'est son poste d'organiste à la Madeleine. Là, il dispose d'un instrument de cavaillé-colle, inauguré en 1846 par Lefébure Vély, son prédécesseur à la tribune. Un excellent instrument donc, encore quasi neuf en 1858, lorsque le jeune Saint-Saëns, 23 ans, est nommé titulaire. C'est un poste très avantageux, le salaire y est plus motivant que dans d'autres églises, et en plus des messes obligatoires, ordinaires et fêtes, il y a toujours des à côté, mariage, baptême, enterrement. Les paroissiens de la Madeleine, dans les très beaux quartiers de Paris, sont également des habitués de l'opéra et de l'opéra comique. Ils ne se cachent pas d'aimer la musique qu'on y fait. Or, de plus en plus, Saint-Saëns épure son style. Lorsqu'il est à son orgue, il préfère retourner à Bach qu'aller vers Offenbach. Voilà qui n'est pas du tout du goût du clergé de la paroisse, qui préfère satisfaire ses ouailles que son organiste. Source de nombreux conflits, qui finissent par lasser notre musicien, qui n'est pas non plus, soyons honnêtes, toujours facile à vivre. note de la Revue et Gazette musicale, 15 avril 1877. Monsieur C. Saint-Saëns vient de donner sa démission des fonctions d'organiste de la Madeleine, qu'il remplissait depuis près de 20 ans. Retenu à Paris par la périodicité de ses occupations, il ne pouvait accepter que rarement les engagements qu'il appelait en province et à l'étranger, comme virtuose et comme compositeur. Et un peu plus loin, Monsieur C. Saint-Saëns vient de partir pour une tournée de concert à Lyon, dans le sud-est de la France et en Suisse. Prélude, opus 99, numéro 3 de Camille Saint-Saëns, Vincent Jeanvrin, sur l'orgue Cavaillé-Coll de la Madeleine à Paris. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Béatrice Trichet pour la réalisation, Bruno Mourlant pour le mixage et Françoise Monteil pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.